Bonjour, c'est Laetitia et vous écoutez Vieille en puissance, une série de podcasts à l'intersection de trois sujets: l'âge, l'argent, les femmes. Tout au long de leur vie, les femmes se heurtent à des obstacles qui les appauvrissent et creusent les écarts avec les hommes. Dans ces conditions, c'est à la retraite que ces écarts femmes-hommes sont les plus importants, car ils sont la somme de tous ces obstacles. Pour les femmes, qui forment la majorité des personnes âgées, vieillir représente une menace. Pourtant, cela devrait être une chance, non ? Vieillir, après tout, c'est drôlement mieux que l'alternative, mourir. Comment ne pas être une vieille pauvre ? C'est la question qui a déclenché ce projet de podcast avec Caroline Taconnet, Katerina Zekopoulos et moi-même, Laetitia Vito. Les vieilles en puissance, c'est nous, à la fois parce que nous sommes des vieilles en devenir et parce que nous voudrions être en puissance. Bonne écoute ! Bonjour, c'est Laetitia. Dans ce nouvel épisode de la série Vieille en puissance, je reçois Sarah Zitouni. Sarah fait de la stratégie dans un grand groupe automobile suédois. Et en plus, elle a créé son entreprise de coaching féministe. Elle a publié un guide qui parle vrai, sans aucune langue de bois, pour aider les femmes à s'approprier leur carrière professionnelle. Power, ta carrière. Vous avez compris le jeu de mots. Comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau ? Et notamment, comment ne pas s'appauvrir ? Car la vie professionnelle est semée d'embûches qui peuvent nous faire perdre du temps et de l'argent. Dans cet épisode, nous allons parler de travail, de salariat, des écueils misogynes et de comment ne pas laisser sa peau au travail. Merci, Sarah, de venir parler dans le podcast Vieille en puissance. Alors, il y a des gens qui te connaissent très bien parce que tu es très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où tu as, je ne sais pas, j'ai pas vérifié ce matin, mais ça doit être quelque chose comme 150 000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, je voulais d'abord poser une question sur toi. Comment t'es venue cette vocation de coacher les femmes pour qu'elles se fassent moins avoir dans le monde du travail? Comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec un travail salarié? Est-ce que les deux sont en opposition? Est-ce que l'une des activités sert l'autre? La question qu'on a envie de se poser, c'est quand tu fais tant de choses comme ça de manière visible sur les réseaux sociaux, quel impact ça a sur ta vie professionnelle au quotidien? C'est le genre de questions qu'on peut se poser. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Et puis, comment t'es devenue une star sur Instagram aussi?
Alors, on va commencer par le début. En fait, moi, j'ai travaillé toute ma carrière dans l'automobile et dans le maritime. Donc, ça fait plus de 10 ans que je travaille et donc j'ai été dans des secteurs où il y avait essentiellement que des hommes autour de moi. Et le fait de me retrouver dans des secteurs aussi masculins, ça m'a vraiment fait manquer de femmes, tout simplement, autour de moi. Et donc, quand j'en suis arrivée à la période du Covid, introspection, comme tout le monde, on réfléchit parce que on travaille moins, tout simplement. Moi, j'étais au chômage technique au tout début du Covid parce que tout s'est arrêté dans le maritime avant que les gens se mettent à s'asseoir chez eux et acheter des trucs sur Amazon et que tout reprenne à fond, dans le maritime en tout cas. Moi, il y a eu cette période un peu de blanc. Et donc, en faisant le bilan, j'ai eu à la fois des notes très, très positives. J'étais très contente de où j'étais arrivée dans ma carrière. J'étais contente des responsabilités que j'avais réussi à prendre. J'étais contente du développement que ça a eu. Mais j'ai aussi pu avoir ce recul sur toutes les embûches qui s'étaient passées, les cas de harcèlement sexuel, les limites qu'on m'avait mises quand j'étais plus jeune et que je percevais pas comme ça de l'autre côté de la barrière. Mais maintenant que j'étais devenue une power, une femme puissante, je me rendais compte que ça avait été injuste, en fait. Et puis aussi, sur l'absence de femmes autour de moi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que j'ai commencé mes études d'ingénieur et je les ai commencées au lycée, donc depuis que j'ai 13 ans, il y a pas de filles, pas de femmes autour de moi. Et ce manque, en fait, ce que ça voulait dire. Et puis du coup, j'ai commencé à réfléchir, analyser. Moi, je suis une scientifique, donc j'ai lu de la donnée, etc. Et à me rendre compte qu'en fait, toutes ces femmes-là, on les avait perdues en route. Et c'était pas une perte genre par accident comme la montre qui vous tombe du poignet, quoi. C'était vraiment, il y avait eu tellement d'obstacles que ça avait filtré. Et il y avait plus de femmes, nulle part. Je faisais des réunions entières avec que des bros toute la journée, quoi. Et je me suis dit que c'était pas possible et que je voulais, moi, contribuer, en fait, à ce qu'il y ait l'émergence, quoi, d'une génération, à ce qu'il y ait plus de femmes, à ce que les femmes elles, puissent sauter au-dessus des obstacles, à ce qu'on puisse en enlever certains. Et c'est comme ça que j'ai commencé au début à donner des conseils sur Instagram. Alors, comment c'est devenu un compte à 150 000 ? Franchement, moi-même, je ne suis pas toujours sûre de ce qui s'est passé, dans le sens qu'au début, je m'étais dit que je parlerais à ma sœur, ma cousine et trois potes, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, bah, faut croire que ça répond à un besoin, puisqu'il y a eu de plus en plus de femmes qui nous ont rejoints. Et surtout, bah, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire à la fois à quel point ça les a aidées, mais aussi le fait qu'elles le recommandent autour d'elles à toutes leurs amies, aux stagiaires qui les rejoignent, aux alternantes qui les rejoignent. Je trouve ça super mignon quand quelqu'un me dit « J'ai offert comme cadeau de fin d'alternance ton livre à une femme qui était avec nous. » Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, ça s'est passé. Pour répondre à la question sur ma vie pro-salariée par rapport à ma vie pro-d'entrepreneur, moi, j'ai été transparente assez rapidement sur ce que je faisais. D'ailleurs, en fait, je communique en ligne et mon livre, il paraît sous mon vrai nom. J'ai jamais dissocié mes deux identités. Je crois que ça m'était même pas venu à l'esprit au début quand j'ai commencé. Et ensuite, bah, j'ai continué comme ça. J'ai été très transparente. Le boulot de directrice de la stratégie que j'ai actuellement, quand j'ai passé l'entretien, j'ai dit à mon chef, ouais, mais en fait, par contre, il faut que je te dise que si j'ai le job en août, ben en septembre, j'ai une semaine de promo de mon premier livre. Donc, il faut que tu me laisses partir en France, même si j'ai pas de congé, quoi. Et ça se nourrit les deux. Le fait que je sois salariée, ça nourrit évidemment très, très fort mon expérience de coach. Parce qu'en fait, je peux auto-expérimenter sur moi. Et j'ai encore les deux pieds dans le monde du travail. Donc, j'ai pas cette distance qui fait que des fois, on peut avoir des conseils qui datent un peu, où il y a des évolutions qu'on capte pas immédiatement. Et l'autre aspect de l'autre côté, c'est que mon engagement féministe, il s'arrête évidemment pas à la porte de l'entreprise dans laquelle je suis, parce que ma conviction profonde, c'est que le fait que je sois arrivée au poste où je suis arrivée et que j'ai pu faire la carrière que j'ai pu faire, ça ne présuppose pas que ça doit être un succès ou une réussite que pour moi. C'est-à-dire que si j'arrive là où je suis et je ferme la porte derrière moi, ça a aucun, j'allais dire putain, désolé, ça a aucun purin d'intérêt dans ce monde en fait. Moi, je veux être capable de depuis la place où je suis, de tendre la main aux suivantes. Et donc, forcément, ça veut dire que le fait que je sois directrice de la stratégie, même si je n'avais pas Power Ta Carrière, je ne fermerai pas la porte pour les suivantes.
Et comment les bros regardent ce succès que tu as en tant qu'entrepreneur et ton activité très militante sur tous ces sujets, est-ce qu'ils s'en offusquent un peu? Oh, quand même, on n'est pas si terrible que ça. Ou est-ce que, au contraire, il y a une forme de respect et d'admiration qui est éveillée en eux par rapport à tout ce que tu fais? Ou est-ce qu'ils en ont aucune idée?
Eh ben, en fait, un peu les trois. Si on commence par le plus simple, aucune idée. Il y a cette dimension que déjà je poste et je collabore sur tous les aspects de Power Ta Carrière en français.
En français, et il y en a qui ne sont pas francophones. Ouais.
Voilà, et moi, mon entreprise, elle est suédoise et mes collègues sont très largement bilingues, donc ils parlent très bien anglais et très bien suédois, sans problème, mais ils ne sont pas francophones. Après, les gens savent que j'ai sorti un livre, hein, je n'ai pas caché le truc. Déjà, c'est compliqué parce que je fais des semaines de promo en France, donc je suis obligée de dire « je refuse cette réunion ». Cause, bah, je suis en France une semaine pour la promo de mon livre. Donc, c'est pas quelque chose que je garde très secret ou très discret au travail. J'ai un collègue francophone, d'ailleurs, suédois, qui a lu mon livre et qui a lu le premier, qui a lu le deuxième, qui est très content de les recevoir à chaque fois, qui veut sa dédicace, etc. Donc, c'est très mignon. Donc, il y a toute une catégorie très mignonne et de gens qui disent, bah, c'est bien, ça enrichit en quelque sorte mon profil de leader aussi. D'avoir cette dimension, bah, leader aussi d'opinion et d'opinion très marquée. Et c'est pareil sur LinkedIn, en fait, j'ai toujours eu un ton très, très franc. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ça filtre. C'est-à-dire que ça filtre pour moi les mauvaises opportunités, ça filtre pour moi les gens avec lesquels ça n'aurait jamais fonctionné. Et à l'opposé, ça m'attire ma tribu, les gens qui fonctionnent avec moi, les gens qui partagent au moins une ouverture d'esprit par rapport à ce que je présente, même s'ils sont pas en accord à 100%. Et donc, il y a aussi évidemment la catégorie de ceux qui trouvent ça complètement ignoble et illégitime et catastrophique de ma part que d'être militante. Mais ces gens-là, en fait, ils bloquaient déjà avec moi avant Power Ta Carrière. J'étais pas quelqu'un qui mâchait mes mots déjà et j'étais pas non plus pas féministe avant Power Ta Carrière. Et donc, c'était déjà des gens qui avaient des difficultés avec... Tu sais, c'est en anglais, c'est le truc de « how would she dare », tu vois. Et donc, en fait, il y a déjà des gens qui se disent « mais comment on peut oser faire quelque chose comme ça ?» Ils trouvaient ça déjà dans ma nature personnelle, en fait. Donc, le fait d'être entrepreneur et d'avoir power ne change pas beaucoup de choses à ça.
Génial. Je voudrais qu'on commence à parler des vieilles en puissance et en particulier de ce qui est le résultat de la carrière, qui est que à la retraite, il y a 40% d'écart entre les femmes et les hommes. Alors 28% avec les pensions de réversion, mais l'effet des pensions de réversion, on en a parlé dans un épisode, ça me nuise parce que plus de femmes sont pas mariées et que c'est vraiment ça repose sur le mariage très patriarcal, etc. Donc on va rester avec 40% sur l'écart des pensions de droit direct. C'est la somme de plein de choses, plein de choses. Évidemment, la pénalité maternelle, mais aussi plein d'obstacles que le monde du travail met sur le chemin des femmes. Et pour les vieilles en puissance, c'est vraiment super important d'éviter cette précarité, de se dire « je ne voudrais pas être pauvre ». Et on est beaucoup dans nos générations, enfin la mienne et la tienne, même si on n'a pas le même âge, à risquer d'être en fait plus précaires même que nos mères à la retraite, à cause des réformes des retraites, à cause d'un monde du travail qui produit d'ailleurs plus de précarité qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette expression « vieille en puissance » par rapport à tout ce que je viens de dire? Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis « vieille en puissance »
Quand on pense à la vieillesse, bizarrement, enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout la façon dont je le partage, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, même de mon âge, hein, donc moi j'ai 33 ans, penser au fait de vieillir, c'est penser à une espèce de décrépitude. C'est penser à une image comme ça, vieille égale grabataire, tu vois. C'est hyper négatif et c'est surtout très automne de notre vie, quoi. Tu vois, ça y est, c'est la fin, quoi. Alors qu'en fait, moi j'ai toujours pensé à la vieillesse, justement, comme une forme de puissance. D'abord parce que vieillir, c'est avoir eu la chance d'être arrivé jusque-là. Ça a l'air hyper banal, mais dans ma vie personnelle, j'ai traversé des choses qui étaient difficiles et j'ai des proches aussi qui ont traversé des occasions et des opportunités, enfin malheureusement des situations de crise où ils auraient potentiellement pas pu, pas vieillir. Et donc, je continue à vraiment voir dans le fait de vieillir la chance d'avoir vécu beaucoup d'années en fait.
Vieillir, c'est avoir survécu, quoi, déjà.
Vieillir, c'est avoir survécu. OK, ça a l'air super morbide, mais c'est en fait aussi très positif. C'est-à-dire, vieillir, c'est avoir eu des multitudes d'opportunités, des multitudes d'événements, des multitudes d'expériences, des multitudes de souvenirs. Et pour moi, du coup, c'est une puissance parce que c'est la puissance de l'information, du temps qui passe, comme il nous enrichit, en fait. Donc, pour moi, les vieilles, elles possèdent, tu vois, une puissance, la puissance de ça, quoi, de temps qui est passé et qui nous a enrichis. Et en fait, cette notion de décrépitude, le seul endroit où je peux la retrouver, c'est dans ce que tu dis là, c'est-à-dire dans l'appauvrissement financier, dans le fait que vieillir, c'est littéralement, potentiellement, vivre moins bien, drastiquement moins bien que tu n'as pu vivre quand tu étais plus jeune, adulte, mature, quoi. Et là-dedans, c'est la seule déchéance que je vois, en gros, dans l'âge. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que, dès le début d'Empower ta carrière, j'ai voulu combattre. Parce que quand j'incite très, 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 très fortement toutes les powers à négocier leur salaire, c'est aussi avec cet argument en tête de dire que, en fait, notre salaire actuel, à terme, c'est ta future retraite. C'est pareil quand je vois les gens se plaindre autant de la taxation, des fois. Moi, j'ai une position assez radicale là-dessus. On peut discuter du mauvais usage de l'argent des impôts. Mais par contre, je suis pas du tout favorable à la discussion de surtout à cette espèce de gros mythe économique rabattu en permanence qui est en fait on assomme les gens de taxes. On peut dire que les taxes sont mal utilisées et on peut dire que les taxes sont mal réparties entre les différentes couches de population, ça c'est très vrai, mais le on assomme les gens de taxes, en fait, il y a un sacré paquet de trucs qui sont du salaire différé. Et moi, j'aimerais pas qu'on vive dans un monde à l'américaine par exemple où il y a moins de salaires différés qui est pris de nos salaires. Mais du coup, ça veut dire que c'est toi qui cotises sur ta pension de retraite, c'est toi qui fais tes choix financiers. Et donc, si tu sais pas les faire ou que t'es pas en mesure de faire des choix financiers à certains moments de ta vie, bah, ça va t'impacter pour toujours, tu vois. Je trouve que c'est déjà suffisamment violent le fait qu'en fait, la négociation de salaire, d'une certaine manière, impacte tous tes choix financiers immédiats et futurs pour pas commencer à en remettre une couche. Donc, c'est ça mon point de vue sur cette histoire d'être une vieille en puissance. C'est vieillir avec un niveau de vie et un confort qui est au moins équivalent à celui qu'on avait quand on était adulte.
Actif.
Voilà.
Et donc, comme tu le dis, peut-être le premier point le plus important, c'est de gagner de l'argent au travail, avant même des choix financiers avisés, des investissements malins, etc. Même si tout ça, en fait, ça compte aussi, parce que les systèmes de retraite évoluant de la façon dont ils évoluent, malheureusement, on va vers davantage de capitalisation, un système où on va être beaucoup plus sur ces logiques individuelles de voilà d'investissement, d'épargne puis d'investissement. Mais ça, on va pas en parler forcément avec toi. On va d'abord parler de gagner de l'argent au travail. Alors c'est marrant parce que gagner, on a en français le mot gagner, c'est la même chose pour gagner au loto et pour gagner de l'argent au travail. Tu vois, alors que dans d'autres langues, en anglais tu as earn, en allemand voilà and win exactement, en allemand tu as verdienen, qui est aussi c'est qui est le même mot que mériter l'argent, tu vois. Alors que gagner au loto c'est pas le même mot. Donc, on va commencer par ça justement, par cette histoire de gagner au travail. Et gagner au travail, on se heurte immédiatement à la question du temps. Tu en parles beaucoup dans ton livre, en fait, à plein d'endroits, parce qu'elle est intimement liée à celle de l'argent. Pas parce que on peut dire comme ça, bêtement, le temps, c'est de l'argent. C'est un petit peu trop bébête à dire comme ça. Mais en fait, pour les femmes, elles éprouvent tout ça, cette idée qu'elles donnent énormément de temps. Elles le donnent. Et pour faire des choses pour les autres, pour faire des choses pour le collectif, et des choses qui sont utiles, qui sont nécessaires, qui sont bonnes. Mais souvent, c'est du temps qu'elles n'ont pas pour atteindre les objectifs individuels qu'on leur fixe et pour gagner de l'argent. Ça peut être aussi des activités complémentaires, des tâches qui sont vraiment rémunérées très, très clairement. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ce rapport au temps? Comment est-ce qu'on peut ne pas s'épuiser pour avoir un temps qui est plus rémunérateur au travail? Je ne parle pas de la vie à côté.
Oui, parce qu'il y aurait tout un sujet sur la vie personnelle. Et c'est un sujet de la vie personnelle qui d'ailleurs déborde sur le travail, comme on l'imagine directement, c'est-à-dire je suis obligée de réduire mes horaires de travail pour une raison X ou Y, mais qui déborde aussi sur le travail de la manière dont on va parler là, qui est si on considère, en fait, si on a l'habitude que le soin des autres soit apporté par les femmes. Donc, c'est tout un modèle de société, quoi. Les femmes s'occupent des autres, elles ne s'occupent pas d'elles-mêmes. Et le soin de tout le monde est assuré collectivement par les femmes. Donc, si on part sur ces deux hypothèses de base avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais qui sont les hypothèses sociales avec lesquelles tout le monde travaille, ça veut dire qu'en entreprise, les missions de care, on les confie aux femmes. Les postes du care sont les postes des femmes. Et aussi, on va du coup juger le care de façon inférieure. C'est le truc gratuit que font les femmes, c'est normal. Sauf que comme le temps n'est pas extensible, tout ce temps-là où on accomplit des missions du care, alors dans tous les postes, hein, c'est-à-dire que je te donne un exemple. Dans le livre, il y a l'exemple de ma collègue Jennifer. Ma collègue Jennifer est aussi une stratège. Et ma collègue Jennifer, elle fait toutes les petites missions à droite à gauche qui sont bien pour le soin du collectif, donc de notre équipe de stratèges, et pour la liaison, la relation, donc tu vois, la charge émotionnelle, le relationnel entre les équipes. Et donc, par exemple, Jennifer, c'est celle qui va s'assurer que la liste des projets est tenue à jour, qu'on a bien le dernier statut sur les projets. Quand il y a une boule puante, genre le projet que personne ne veut savoir dans quel statut c'est ce truc parce qu'on sait tous que ça a pourri quelque part. Ben, c'est Jennifer qui va aller chercher le poisson pourri, tu vois. Quand il faut être super user d'un logiciel, donc un boulot super ingrat parce que tu vas devoir te taper les formations complémentaires de l'IT, tu vas faire le relationnel entre l'IT et nous, tu vas recevoir que ça, c'est le bureau des plaintes, on va se plaindre du logiciel et l'IT va se plaindre qu'on n'a rien compris, quoi. Donc, pour faire tampon, c'est Jennifer. Et en fait, toutes ces missions-là, c'est des missions qu'elle fait sur son temps de travail. Et comme elle les fait sur son temps de travail, ça veut dire que pendant ce temps-là, elle n'est pas en train de faire les rapports de haut profil qui vont être présentés au board et qui vont la faire reconnaître comme étant une professionnelle, tu vois, très qualifiée dans son job. Et donc, comme ça, tu crées cette espèce d'injustice flottante dont tout le monde se fout, mais qui a un impact tout à fait réel et qui fait que cette femme, en fait, ben, on pense que ce qu'elle fait, c'est pratique, quoi, tu vois, mais pas que c'est une professionnelle excellente. Et du coup, le jour où il faudra choisir un nouveau leader pour notre équipe, est-ce que tu penses que qui que ce soit va genre sérieusement considérer Jennifer? Et même au quotidien, quand elle va aller pour négocier son salaire. Récemment encore, dans une réunion, j'avais un collègue qui disait « Jennifer, elle est pratique, en gros, elle fait plein de boulots de secrétariat qu'on aurait la flemme de faire. » C'est horrible comme truc à balancer, et c'est horrible de le balancer comme ça dans une réunion d'équipe devant notre chef. ça ruine son potentiel de négocier à la fin de l'année, en fait. Et tu vois, je pense que le cas de Jennifer, il est, j'ai voulu en parler dans le livre parce qu'il est loin d'être rare. J'en ai croisé plein dans la vie des femmes qui faisaient plein de choses qui sont hyper utiles pour tout le monde. Et moi, en fait, mon conseil là-dessus, il est très, très, très drastique. C'est de dire qu'il faut qu'on arrête d'abord d'un point à titre individuel parce que ça a un impact catastrophique sur notre carrière à titre individuel. Mais aussi, il faut qu'on arrête parce que je pense que si on faisait la grève collective de ce genre de mission qui soutiennent tout le monde, les gens commenceraient à réaliser l'importance que ça a. Et peut-être qu'ils commenceraient à les valoriser à leur juste importance. C'est un peu, tu sais, la grève des chaussettes, quoi.
Oui, mais alors la grève des chaussettes, c'est là où c'est, moi, j'ai toujours un argument presque un peu philosophique aussi, c'est que quand on arrête de le faire, on se dit, puisque c'est important et nécessaire, les autres, donc en partie les hommes, vont prendre le relais et la vie pourra continuer. Et en fait, ils prennent pas le relais. Quand tu fais la grève des chaussettes, ce dont tu te rends compte, c'est que tu peux attendre 10 jours, 12 jours, 15 jours, il y aura plus de chaussettes, mais souvent, on peut ne pas prendre le relais. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et donc, à dire aux femmes, arrêtez de perdre votre temps à faire des choses qui ne sont pas valorisées et qui vous appauvrissent, eh ben, on risque finalement de promouvoir une société dans laquelle il y a moins de care, dans laquelle tout le monde joue pour sa pomme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on te dit parfois et qu'est-ce que t'en penses en fait? Parce que, à dire aux femmes, faites comme les hommes, bah, le risque, c'est qu'on ait une société où il n'y a plus de femmes. Et les femmes, en fait, elles font des choses essentielles.
Ah, mais moi, je vivrais avec plaisir dans une société où il n'y a que des femmes. Hein, surtout pour avoir travaillé autant d'années avec que des hommes. Et par exemple, je suis assez atterrée des fois la perpétuation de ce mythe que bosser qu'avec des femmes, c'est horrible. Et parce que, tu comprends, elles gossipent, elles sont insupportables, elles se tirent dans les pattes. Et dès que j'entends ça, je me dis toujours, mais vous avez pas bossé qu'avec des hommes. Parce qu'en fait, ils gossipent, c'est une catastrophe, ils se tirent dans les pattes, c'est trois fois pire. Enfin, tu vois, c'est un truc de groupe. C'est pas un truc, et c'est un truc de groupe homogène. C'est pas un truc de groupe féminin. Bon, c'était pas la réponse à ta question, mais on a mis ça là.
Important de le dire.
On peut passer à autre chose. Et du coup, je comprends ce que tu dis. Alors, je nie tout de suite le fait que je dis aux femmes d'être des hommes. Parce qu'il y a plein d'autres endroits dans le livre, par exemple, où je mets ça très clair, que je recommande pas aux femmes d'être des hommes. D'abord, parce que je pense pas qu'on puisse se le permettre. Il y a beaucoup de comportements masculins que, malheureusement, on n'a pas le droit d'adopter. Donc, du coup, pour être purement pragmatique, justement, tous ces conseils à base de « il suffit de se sortir les doigts et de faire comme les hommes », ça ne fonctionne pas parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas tolérées pour une femme, qui sont complètement acceptables. Et c'est là, on parle femme-homme, mais c'est pareil, blanc-noir, tu vois. C'est-à-dire, il y a des comportements d'homme blanc que tu peux pas te permettre quand tu es un homme noir parce que sinon, ça c'est extrêmement mal vu. Donc, d'un point de vue purement pragmatique, c'est pas on peut pas faire un copier-coller parce qu'il n'y a pas cette justice. C'est pas un comportement qui est valorisé, c'est le fait d'être un homme qui est valorisé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, je comprends pour la grève des chaussettes à la maison. Et oui, tristement, il y a vraiment ce souci que certaines personnes pourraient continuer à aller à la boutique d'acheter de nouvelles chaussettes plutôt que de laver les précédentes, clairement. Et il y a aussi la difficulté de qu'est-ce que je fais des enfants, tu vois. C'est toujours cette question, ok, je fais plus rien pour mon mari, mais qu'est-ce que je fais pour les enfants? Donc ça, c'est toujours cette difficulté. Mais au travail, je crois plus là-dedans, dans le sens que, un, la grève, c'est une notion de travailleur. C'est une notion de salarié, en fait, la grève. Deuxièmement, on a des exemples marquants de ça, c'est-à-dire la grève des femmes en Islande, ça a marché. Donc, j'ai l'impression que, tu vois, tu as des exemples historiques de arrêter l'économie ou pourrir l'économie, ça a quand même tendance à rentrer dans la tête des gens. Après, je vois bien aussi que les derniers combats sociaux en France, ils ont été très longs, ils ont mobilisé beaucoup de gens, ils ont malheureusement pas du tout été entendus. Donc, on a aussi une crise autour de la grève, c'est clair. Et puis, il y a aussi l'urgence de l'immédiat. Et donc, quand je dis aux femmes, s'il vous plaît, arrêtez de faire les choses qui vous nuisent, c'est parce que oui, je comprends que peut-être à terme, sur un long cours, elles vont nuire à notre société et à notre collectif global. Moi aussi, je veux un collectif qui est plus collectif, justement, qui pense aux autres et qui inclut les autres et qui où l'intelligence commune est plus forte que l'individualité. Mais l'immédiateté, c'est qu'elles s'appauvrissent. L'immédiateté, c'est qu'elles peuvent pas quitter un conjoint parce qu'elles n'ont pas l'argent nécessaire pour vivre seules. L'immédiateté, c'est ce que tu disais, c'est 40% de moins à la retraite. C'est toutes les violences conjugales qui incluent un paramètre de violence économique. Et donc, c'est ce souci de l'urgence qui me fait agir et donner le conseil que je donne là. parce que j'ai l'impression qu'on a une, on a peut-être une crise au long cours, mais on a surtout une crise tout de suite. Et c'est celle-ci que je veux adresser avec le livre.
Très clair. La rémunération, le fait de gagner plus, c'est évidemment toujours très lié à la manière dont tu perçois ta propre valeur, dont tu as confiance en toi. Donc tu parles beaucoup du syndrome de l'imposteur, tu parles beaucoup de confiance. Tu n'utilises pas forcément autant le mot autorité que moi je trouve très fort, et tu vois, c'est quelque chose qu'on ressent quand on t'écoute. Tu es une personne qui a de l'autorité, et ça me fait penser à un livre que j'ai adoré qui s'appelle The Authority Gap, hein, le fossé de l'autorité, qui font que l'autorité perçue voilà, selon le genre, selon l'origine ethnique, etc., va être différente. Et cette question d'autorité, elle est très importante dans le monde professionnel. Et elle est voilà, elle est la sœur de la notion de la confiance, qui est plus quelque chose peut-être d'intime ou de personnel. Donc la confiance doit se traduire par de l'autorité et être perçue comme une autorité par les autres. Toi, t'as un petit conseil que t'as donné dans ton livre, je trouve que l'expression elle est géniale, c'est choisis ton épouvantail. Alors par rapport à cette notion de confiance et d'autorité, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire choisis ton épouvantail?
Oui, bien sûr. Et merci pour le mot de l'autorité. Je l'utilise jamais, mais c'est hyper intéressant ce que tu présentes. Et du coup, tu vois, c'est quelque chose que je vais emporter avec moi à partir de cette interview pour y réfléchir plus. Je parle souvent d'assertivité, mais je trouve que c'est trop, d'une certaine manière, maintenant que je le compare avec le mot d'autorité que tu utilises. Assertivité, c'est voilà, le biais du scientifique, tu vois, mot scientifique, machin. C'est plus clair ce que tu dis. Alors, il y a ça. Donc, choisir son épouvantail. En fait, c'est marrant parce que c'est un conseil qui revient beaucoup dans les interviews que j'ai autour du livre, et tu sens que c'est le truc, c'est un peu péché, mais les gens, ils aiment bien comme un bonbon. C'est genre bouffer des bonbons au lit. C'est le truc un peu vilain, mais on aime bien. Alors moi aussi, je trouve que c'est vilain, mais j'aime bien. C'est l'idée qu'en fait, on connaît tous, surtout toutes, un homme blanc médiocre dans notre entourage. Soit que c'est un entourage proche, genre on a tous et toutes un tonton Jean-Mimi, ou alors, c'est à la télé. Tu vois, t'allumes la télé et t'as des toutologues, des mecs qui parlent de tout avec une autorité de malade, alors qu'en fait, ils peuvent pas être compétents sur tout. Tu sais, c'est les mecs, pendant le Covid, ils étaient épidémiologues, et puis après le Covid, quand il y a eu la crise économique...
Puis on avait que des mecs pendant la pandémie, c'est dingue. Il y avait que des hommes à la télé, c'était pire que d'habitude. C'est fou, hein, ouais.
C'est ça. Et donc, du coup, tu vois, et puis t'avais, bon, alors, du coup, tu vois, t'as Dr. Patrick Peloux. Bon, bah, c'est bon, on peut entendre des choses de sa part, c'est intéressant. Mais, tu vois, tu vas aussi avoir, oh mince, j'ai mangé son nom, le monsieur avec l'écharpe, Christophe Barbier. Tu vois, Christophe Barbier qui te parle d'épidémiologie. Et puis, lui, il a pas de problème. Paf, il change le braquet, il est sur l'économie, tu vois, hop, pas de problème. Dans 3 secondes, il te parle d'islam. 5 minutes plus tard, il est sur l'immigration, puisque islam, immigration, le virage, il est pas dur. Et donc, les mecs, c'est des pilotes, tu vois, de la pensée, quoi. Ils bifurquent d'un truc à l'autre, c'est quelque chose, quoi.
Toutologue, déjà, j'adore le mot.
Voilà. Et donc, on a tous en tête, tu vois, quand je te dis, prends l'homme blanc médiocre.
Donnes l'exemple du foot aussi. C'est-à-dire qu'on connaît tous des experts absolus en football. C'est absolument génial. C'est un bon exemple. Donc, vous en avez sûrement dans votre entourage, ouais.
Exact. Moi, le foot, j'adore parce que je regarde le foot depuis que je suis toute petite. Mon père, c'est un ancien pro. Je suis très, très fan de foot. Et je me retrouve toujours, d'une manière ou d'une autre, dans un groupe social où il y a des gens, mais ils sont à fond, genre, comme s'ils étaient, tu sais, la fameuse phrase de « Ouais, moi aussi, tu me donnes des millions, je le mets le but. » Mais oui, poteau, on t'a vu jouer dimanche. Donc ça, c'est voilà, l'homme blanc médiocre qui croit qu'il est capable de tout. Vous prenez ce type-là.
Qui n'est pas que blanc, d'ailleurs. Hein,
Pas faux. Souvent, ça aide. Ah, ils sont quand même...
Ouais, ils sont plus susceptibles d'être toutologues quand ils sont blancs, mais ouais. Mais on en trouve partout des médiocres. Oui.
Donc cette personne médiocre là, vous la plantez dans votre cerveau, hop au milieu comme un épouvantail. Et donc en fait c'est comme l'épouvantail va faire peur aux oiseaux pour qu'ils mangent pas les cultures. Vous posez ça en face de votre syndrome de l'imposteur. Et donc quand vous avez cette voix là intérieure qui commence à vous dire mais peut-être que je suis pas légitime à parler de ce sujet ou que je peux pas postuler à ce poste parce que OK, je remplis 60% des critères mais 60% c'est pas beaucoup. Je suis pas capable de faire ça, etc. Repensez à ce type et demandez-vous s'il s'est jamais posé dans sa vie la question de la légitimité. Et en fait, cet exercice de l'épouvantail, ça rejoint aussi mon appel à la colère. C'est-à-dire que je pense que dans les émotions négatives entre guillemets, dans les émotions qui nous montrent un inconfort, je préfère que les femmes fassent appel à la colère que de faire appel à la tristesse. Parce que la tristesse, ça mène au désespoir et en fait, c'est réflectif. Souvent, on se fait du mal à soi-même. C'est interne. Alors que la colère, ça, c'est une énergie, une nourriture pour aller de l'avant contre un truc qui est injuste.
Alors la tristesse peut avoir, c'est juste que la tristesse, elle fonctionne dans la durée. Elle, c'est comme le deuil en fait, c'est un travail de durée. Alors que la colère, c'est quelque chose que tu peux mobiliser dans l'immédiat pour être performant tout de suite. Peut-être une question de durée, les deux sont utiles. La tristesse, elle joue un rôle aussi.
C'est vrai. Et c'est vrai aussi d'ailleurs que quand la colère dure, c'est pas bon parce que la colère, c'est censé être un burst d'énergie, tu vois. Donc si ça traîne.
C'est comme le shoot de sucre, hein, la barre chocolatée ou je sais pas quoi. Voilà, c'est. Je parlais des bonbons tout à l'heure, mais.
Ben voilà, et donc tu vois, l'épouvantail, il sert à ça en fait, il sert à faire peur à ton syndrome de l'imposteur, parce que toutes les fois où tu pourrais te dire, non mais je vais pas aller faire ce plateau télé, tu vois, parce que je maîtrise pas le sujet, à la place tu vas pouvoir te dire, non mais ils vont sûrement envoyer un toutologue à ma place en fait, donc si j'ai ma place et si je dois y aller, ce mec là se serait pas posé la question, et on pourrait se dire, ouais mais en fait du coup, encore une fois, tu vois, je recommande à tout le monde d'être un toutologue, de faire n'importe quoi, etc. Mais le truc c'est que les femmes souvent, avec ce syndrome de l'imposteur, elles partent de tellement loin par rapport à leur légitimité que même si je leur demande d'abandonner entièrement leur syndrome de l'imposteur, et je l'ai vu avec plein de mes coachés, ça les fait pas basculer dans des connasses qui se prennent pour n'importe qui, n'importe comment, tu vois. Ça les remet juste à leur juste valeur, à l'endroit où elles sont vraiment, en fait.
C'est comme c'est une signalisation. Hein. Cet épouvantail, il est utile pour ne pas être dans l'extrême de je m'efface et pour pouvoir prendre simplement sa place normale, quoi. L'épouvantail, c'est un peu comme un rituel. Et toi, tu parles en fait beaucoup de rituels, sans forcément employer le mot de rituel, mais s'inventer pour soi des petits rituels qui nous font nous sentir bien, qui nous font avoir confiance, qui boostent notre confiance, etc. Alors, par exemple, tu parles de célébrer ses succès et même de se faire des cadeaux. Ça aussi, c'est comme les bonbons, on aime bien. On fait comment pour célébrer ses succès et se récompenser?
En fait, le problème, c'est que on a déjà tous et toutes un biais qui est naturel en fait à l'humain et qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de voir le négatif et de marquer les émotions négatives comme souvenirs dans notre cerveau. Et on ressent souvent les émotions négatives comme plus fortes. Ça fait un blip plus important dans notre ligne d'émotion.
Oui, le biais de négativité, que 5 compliments compensent une critique quand on a par exemple une série d'évaluations.
Exactement. Et de la même manière que tu vas te rappeler le truc pourri de ta journée et pas les 5 autres trucs qui ont fonctionné, ou alors ça va prendre du temps. Et donc moi, déjà, ce conseil, il vient pour agir contre ce biais de négativité. Parce que un autre aspect de la création du souvenir et de la mémoire, c'est aussi à quel point, à quelle fréquence tu réactives les souvenirs. Et donc, quand on se félicite, d'abord, on remonte d'un niveau l'émotion négative sur le blip. Donc, si l'émotion, elle est plus forte, ça va marquer le souvenir plus profondément. Parce que t'es content et après t'es recontent d'avoir ton cadeau. Et en plus t'es allé l'acheter. Donc tu vois, t'as plusieurs chaînes d'action et de moments de ouh content qui s'additionnent. Et au-delà de ça, au début, surtout à mes coachés qui ont vraiment du mal avec ça, à reconnaître le positif, à reconnaître leur succès, à ressentir qu'elles réussissent des choses, je leur propose un objet physique parce que ça agit comme encre. En fait, à chaque fois que tu touches l'objet ou qu'on te fait une remarque dessus, et ben t'as ce moment de ça te ramène à ce souvenir, et donc à chaque fois que tu réactives un souvenir, ça renforce les connexions neuronales qui vont vers ce souvenir et donc sa puissance dans ton cerveau. Et donc petit à petit, à force de faire ça, tu recrées une histoire pour toi de réussite et d'être capable, plutôt que d'avoir naturellement en fait tracé cette histoire de la fois où j'ai raté le concours de gymnastique en 6e, et puis après j'ai dû repasser mon bac 2 fois, j'ai pas eu mon permis avant la 4e, etc. À la place, tu vois, tu peux marquer toutes les fois où ça s'est bien passé, qui sont vachement plus nombreuses, même beaucoup moins visibles. Et donc, c'est l'objectif de les rendre visibles. Tu vois, j'avais une coachée qui achetait un porte-clés à chaque fois qu'elle réussissait quelque chose. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ces clés étaient ridicules. Il y avait 250 machins dessus, c'était énorme. Tu les retrouvais dans le fond du sac à main, ça pesait 3 tonnes. Et quand les gens lui faisaient des remarques sur le fait que ces clés étaient ridicules et qu'elles pesaient 3 tonnes, ben elle, ça la faisait marrer parce que c'était les 3 tonnes de son succès, tu vois. Moi, j'ai acheté des coussins pendant très longtemps à chaque fois que je réussissais une vente quand j'étais commerciale. Et donc, du coup, quand les gens venaient chez moi, ils me disaient « Oh là, t'aimes bien les coussins, hein, y en a plein. » Et ben ça me faisait plaisir, tu vois. Il y en a plein parce que j'ai réussi plein de trucs. Et quand j'ai dû arrêter parce que j'avais vraiment beaucoup de coussins, ben c'était marrant de se dire « J'arrête parce que je me fais déborder par mes réussites. »
Ouais, c'est génial. C'est très drôle. Ça me fait beaucoup penser à un dessin animé de Pixar qui s'appelle Inside Out, c'est le titre anglais, où t'as, tu vois, dans la tête des petits personnages, les émotions, toutes les émotions qui sont à la table de décision. Et il est beaucoup question des souvenirs dans ce dessin animé, où les souvenirs sont colorés, en fait, par les émotions qu'on y a mis et que dans un processus normal, bien sûr, il peut y avoir plusieurs types d'émotions qui se mêlent, mais il y en a une qui l'emporte. Et ce qui est très joli dans ce dessin animé, c'est qu'à un moment, bon, la petite fille, c'est une adolescente, vit des épreuves, des moments difficiles de sa vie, et donc l'équilibre entre les différentes émotions, les différents petits personnages qui décident dans sa tête, est un petit peu compromis. Et à un moment, elle colore des souvenirs avec une émotion négative, avec la tristesse, etc. Et toutes les émotions sont contaminées par une tous les souvenirs, pardon, sont contaminés par une émotion qui domine. Si on avait tous dans notre tête comme ça, tous ces petits personnages, toi, tu les vois comment et quels seraient éventuellement tes conseils pour qu'il n'y en ait pas un qui domine les autres?
Bah, alors, déjà, ça me parle parfaitement. Un, j'aime bien ce dessin animé. Deux, moi, dans ma tête, il y a des petites Sarah. Hein. Et des fois, il y a des petites Sarah qui me parlent et qui m'aident ou que j'aide. Et d'ailleurs, ça revient avec la question de l'âge parce que moi, dans ma tête, il y a toute petite Sarah. Donc, c'est petite moi à 4 ans que je convoque souvent. Et il y a vieille moi. Donc, il y a la petite Sarah dessinée dans ma tête, mais qui est la version de moi très, très vieille, quoi. Et du coup, ces deux petits personnages qui sont souvent présents dans ma tête, bah, c'est petite Sarah, par exemple, je fais en sorte de la protéger. Il faut pas lui faire du mal, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai pas le droit d'être malveillante vis-à-vis de moi parce qu'elle est triste. Ou alors, j'ai pas le droit de laisser les gens me faire du mal parce qu'ils font du mal à petite Sarah, en fait. Et puis aussi, petite Sarah, elle est hyper cool dans l'autre sens parce qu'elle est super fière de moi. Elle me regarde et me dit « Waouh, on a fait tout ça ? C'est incroyable !» Et parce que bah elle a 4 ans, donc elle trouve ça juste trop cool d'avoir écrit un livre, tu vois. Elle a pas le truc d'adulte de se dire « Ouais, mais en fait, est-ce que vraiment, tu comprends, le truc s'est pas vendu à 10 000 exemplaires, est-ce qu'on peut être fière de nous ?» Elle est fière de nous tout de suite, tu vois. Et puis la vieille Sarah, c'est pareil. La vieille Sarah, c'est la version badass en mode bah en fait… Oh, tu te prends la tête pour ça. Pff, tu sais, moi, à 85 ans, je m'en rappelais plus de ce truc, hein.
Aucune importance, tout ça, exactement.
C'est vieille Sarah, elle se dit juste, t'inquiète, ça va passer. On a survécu à tout jusqu'à maintenant. C'est sûr que ça aussi, ça va passer crème. On se calme. On va le gérer, ce truc. Donc, tu vois, c'est aussi un peu une version des petits personnages et de prendre soin de soi. Parce qu'en fait, c'est ultra politique, dans le fond. De prendre soin de soi en tant que femme. On en parlait tout à l'heure, mais on est tellement sur cette idée de prendre soin des autres que moi, j'ai des femmes qui m'écrivent pour me dire des trucs que j'aurais jamais imaginé possible parce que cette histoire de prendre soin des autres avant nous, ça peut aller ultra loin. C'est-à-dire que là encore, hier, je recevais un message sur Instagram d'une femme qui m'écrivait, qui me disait « J'ai tout accepté pour ce job et à la fin, ils m'ont licenciée. » Et quand elle disait qu'elle avait tout accepté, c'était… elle était en surveillance fausse couche, elle devait pas travailler et en fait elle allait quand même au travail parce que sa manager l'a harcelée et qu'elle voulait faire de son mieux et qu'elle pensait que cette femme allait être satisfaite à un moment donné et donc en fait elle a continué au risque de sa santé et de la santé de son enfant et tu te dis mais à quel moment en fait on peut aller aussi loin dans le soin des autres avant le soin de soi et en fait des exemples comme ça j'en ai trop tu vois. Et donc, c'est aussi ça que ça convoque ces petits personnages, c'est le soin des autres, mais dans nous.
Exactement, c'est là où c'est comme l'épouvantail, c'est très important, c'est un moyen de se dire que l'amour qu'on donne aux autres, on doit le donner à tous ces différents mois qui sont les mois passés, donc de l'indulgence pour les erreurs qu'on a faites, pour les choix qu'on a faits à un moment où en fait, on l'a fait parce que c'était nécessaire et pas s'en vouloir tout le temps. Donc, aimer ces mois passés, aimer ces mois futurs, ça veut dire aussi faire des choix qui permettent d'être sur le temps long, par exemple de préserver son niveau de fatigue. Hein. Si tu te dis, je vais penser à moi, rien que moi après-demain. Est-ce que moi après-demain serais contente de ce que je fais aujourd'hui? Et si tu les mets à la table ou tu les mets dans ton cerveau, la petite Sarah d'avant-hier, il y a 20 ans, et la petite Sarah et la grande Sarah de dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. En fait, ça affecte, ça a été mesuré. Hein. Ça affecte la manière dont tu prends les décisions, le fait de te projeter dans le futur, par exemple. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que ça fait partie des moyens, hein, comme la lettre que tu écris à la Sarah d'il y a 20 ans ou la lettre que tu écris à la Sarah de dans 20 ans. Voilà, ça fait partie des rituels sur lesquels les coachs travaillent aussi. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises dans ton coaching. Ouais. Bon, voilà, on recommande cette technique-là aussi. Il est beaucoup question, puisqu'on parle de la Sarah du futur ou de la Laetitia du futur qui va regretter le choix de la Laetitia d'hier qui a dit oui pour un truc qui en fait prend bien plus de temps que prévu et qui se dit « mince, pourquoi j'ai dit oui ?» Donc, il est beaucoup question de comment dire non. Comment dire non, comment savoir aussi quand ton non, il passera. Parce que, alors là aussi, je crois que tu l'as lu parce que tu mentionnes les tâches qui ne valent pas promotion, les non-promotable tasks. Donc, tu as dû lire le livre qui s'appelle The No Club. Voilà, génial. Un livre américain de plusieurs femmes, un groupe de femmes qui se mettent ensemble pour apprendre à dire non, pour s'entraider sur comment dire non, à quel moment dire non, à quel moment aussi le fait de dire non va pas apporter une sanction collective. Parce que si les femmes disent pas toujours non, c'est pas seulement parce qu'elles sont trop faibles, trop gentilles, etc., ou qu'elles ont l'envie irrésistible d'être utiles, c'est parce qu'elles ont l'intuition, elles savent profondément que le non est beaucoup plus difficile quand on est une femme que quand on est un homme. Parce qu'il y a des attentes qui portent sur toi et que la sanction, le regard qui va être posé sur toi peut être très très fort. C'est très documenté, on est mal vu, on peut être isolé, on peut être pas promu. Alors, t'as Jennifer tout à l'heure qui dit oui tout le temps, enfin en tout cas qui fait des trucs pour le collectif, mais si elle le faisait pas, c'est pas certain qu'elle serait promue non plus, parce que voilà, donc très compliqué. Qu'est-ce que tu penses de ça, enfin sur comment savoir quand est-ce qu'on peut dire non et comment dire non, et du coup il y a deux questions, je vais les poser dans l'ordre, être organisée. D'abord, c'est comment savoir quand on peut dire non. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que t'en penses? La deuxième question, c'est dire non, ok, mais comment le dire? Parce que on peut pas le dire exactement comme ça, juste non.
Et alors, je trouve ça hyper intéressant que t'aies choisi d'associer ces deux questions et de les poser dans le même temps, parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que depuis le tout début de Power Ta Carrière, d'ailleurs, c'est les sujets sur Instagram qui ont aussi les plus marché, que les gens se repartagent, que les femmes se repartagent le plus entre elles, parce qu'il y a vraiment cette dimension de « c'est pas que je veux pas dire non, mais il faudrait déjà trouver un moyen pour y arriver ». Et donc, j'ai toujours, toujours, toujours voulu associer, entre guillemets, l'injonction du non, dire « si, c'est important, il faut que vous appreniez à dire non, et il faut dire non vraiment plus souvent », avec ces questions de quand est-ce que je peux le faire et comment je peux le faire. Parce que sinon, c'est juste une injonction. C'est genre, vas-y, dis non, quoi, tu vois. C'est la même.
C'est comme, aie confiance en toi.
Voilà, arrête de stresser. J'y avais pas pensé, tiens, tu vois. Enfin, nul, inintéressant, ça sert à rien. Donc, du coup, quand dire non? En fait, je pense que c'est vachement plus souvent que ce qu'on pense. Dans le sens que, normalement, au travail, il y a un certain nombre de choses qui sont des requêtes. Si c'est une requête, ça veut dire que c'est quelque chose auquel on peut dire oui ou non. Si on ne peut pas dire non, si une des deux réponses n'est pas valable et n'est pas disponible, ça veut dire que c'est pas une requête mais un ordre. Et il faut pouvoir reconnaître les requêtes des ordres. Et normalement, la proportion, c'est quand même que c'est beaucoup plus des requêtes au travail que des ordres. Ensuite, il y a aussi que on aimerait pouvoir dire non directement. Et je le dis souvent quand même pour inciter le démarrage en disant non, c'est une phrase complète. C'est-à-dire que vous pouvez juste dire non à quelqu'un et ça suffit. La justification, c'est notamment pour essayer de calmer un peu ce biais de surjustification, tu vois. Mais maintenant, je préfère le calmer en disant autre chose et en disant qui s'excuse s'accuse. Parce qu'en fait, plus tu en remets des couches, plus ça donne l'impression que ton nom, il est friable et il y a toujours des gens qui veulent s'infiltrer comme l'eau, tu vois. Donc, ce que je propose, c'est un peu une recette. C'est de dire, tu dis non, donc une formulation claire pour non. Soit c'est non, soit c'est je peux pas, soit c'est pas possible, soit voilà. À laquelle tu adjoins une explication, parce que la recherche montre que quand on met un parce que, ça passe mieux. Explication étant, un, on a dit une seule, unique, pas genre 20 phrases, et le plus bref possible. Et même une excuse que vous avez l'impression ça tient pas trop, la recherche montre que, en fait, si vous mettez un parce que, ça marche. Genre, je peux pas parce que je suis pas disponible, en vrai, ça marche.
Oui, alors qu'en fait c'est redondant, mais ça marche. Ouais, mais il y a du marche psychologique dans le parce que.
Exact, il y a un psychologique dans le parce que. Si quelqu'un vous donne une, en fait il y a une étude qui est hyper intéressante là-dessus. Il y a un mec qui doit faire des photocopies et en gros il y a un photocopieur dans la bibliothèque universitaire et il est blindé. Et donc les chercheurs ils décident d'envoyer un acteur quoi pour faire des photocopies et il voit à quel point il se fait rejeter par les autres quand il essaye de passer à l'avant de la ligne. Donc, s'il passe et qu'il dit rien, il se fait jeter par les autres. S'il passe et qu'il dit « Excusez-moi, je dois faire des photocopies », en vrai, ça marche, à un assez bon seuil. Et s'il dit « Excusez-moi, je dois passer devant parce que je dois faire des photocopies, c'est ridicule, ça marche plus de 80% des temps. C'est genre, alors qu'en fait, comme tu dis, c'est redondant, tout le monde doit faire des photocopies dans cette ligne, dans cette file, quoi. Donc, cours, je dis non, cours avec un parce que, et dernier aspect, qui est facultatif mais qui peut aider, proposer une alternative. C'est-à-dire, tu peux dire, je peux pas le faire parce que je suis pas disponible, par contre, je suis disponible mercredi après-midi. Est-ce que c'est possible? Et en fait, c'est l'autre aspect psychologique documenté par la science et par la neuroscience, qui est que en fait, si t'offres un choix à l'autre, l'autre, il a l'impression d'être en contrôle de la situation. Et du coup, bah, t'as plus l'air d'être en contrôle en disant non. Et comme on sait qu'en plus, hein, les hommes, ils aiment bien être en contrôle de la situation. Ce qu'ils aiment pas, c'est une femme qui contrôle. Bah, si on peut un peu arnaquer le truc comme ça, ça passe bien, quoi. C'est pour ça qu'il y a des phrases toutes faites dans le livre sur plein de sujets comme ça. C'est parce que je veux que les femmes puissent embarquer avec elles une recette et des phrases faites pour que non, ça devienne plus facile au quotidien.
Voilà, et puis parfois, c'est une alternative, ça peut être une solution alternative. C'est, tu pensais à utiliser tel outil, ça te permet de le faire extrêmement rapidement, comme ça. Ça peut être plein de choses, en fait, dans les alternatives. Ou tel service en externe qui fera ça mieux que toi. Ou voilà, plein de manières de dire...
ou à une autre collègue aussi, des fois.
Voilà, ou alors une autre collègue, ça peut être un cadeau empoisonné. Ouais. Mais
pas dans mes attributions. Donc, c'est ouais. OK aussi de dire « Non, je peux pas le faire. C'est pas dans mes attributions. Est-ce que tu as vu avec Jean-Mimi ?»
Voilà, si c'est Jean-Mimi. Après, si c'est
une autre Sarah... Si c'est Jean-Mimite, on n'y va pas.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, tu parles aussi beaucoup de autopromo, le fameux storytelling de son travail, parce que on a tous, ce syndrome de... Enfin, pas toutes, mais beaucoup, ce syndrome de la bonne élève qui est... Mon travail est génial. Enfin, mon travail, j'ai tellement travaillé dur que c'est bien. Enfin, pas forcément génial, mais je sais qu'il est de qualité. Et donc, on va venir me chercher. On va bien le voir, ça va finir par se voir. Grand, grand classique, dont parle aussi beaucoup Lucille Quillet, que j'ai interviewée sur le couple, donc sur un autre sujet pour Vieille en puissance. Est-ce que tu as quelques conseils simples pour faire un bon storytelling qui nous met à l'aise parce que... il y en a beaucoup qui ont énormément de mal avec l'idée de se mettre en scène, de faire du théâtre en permanence, de regarder comme je suis bonne, je me tape la poitrine comme je suis géniale. C'est indispensable de faire savoir ce qu'on a fait parce qu'en fait, ça ne va pas se voir tout seul. En revanche, quand on n'est pas à l'aise avec l'idée d'une auto-promo permanente, qu'est-ce que tu as quelques conseils pour des femmes, et d'ailleurs aussi des hommes, qui ont du mal à l'idée de se mettre en avant davantage?
Mais je comprends tout à fait. Et c'est aussi, comme on disait, lié aux autres sujets précédemment. Si je ne sais pas ma valeur, si je ne suis pas 100% sûre que ce que je fais, c'est suffisant ou suffisamment bien, c'est d'autant plus dur. Donc en vrai, les premiers conseils, on les a donnés plutôt dans le podcast. Réaliser sa valeur, l'épouvantail, etc. Ça aide aussi à se dire « Attends, ce que je fais, c'est bien, je vais un peu en parler quand même ». Donc, je pense, c'est pas la réponse complète, évidemment, mais je pense que c'est déjà le socle de base. Parce que tu vois, c'est difficile d'appliquer des conseils si en plus, soi-même, déjà, on se rend pas compte de sa valeur. On s'en rend compte souvent trop tard en mode, après tout ce que j'ai fait pour eux. Et moi, il y a des femmes qui m'ont littéralement dit cette phrase, hein, on n'est pas venu me chercher, je trouve ça anormal. Et moi, j'ai en tête le truc de Blanche-Neige, tu sais, genre, un jour mon prince viendra, mais personne ne viendra, personne ne viendra. Il faut sortir du château toute seule. Donc, typiquement, c'est important, le faire savoir, c'est indispensable. Beyoncé, elle fait sa promo alors que tout le monde sait qui est Beyoncé. Tu peux pas te permettre de pas le faire. Mais du coup, comment faire ça? Un des exercices que je propose, c'est les 3 P. C'est-à-dire de faire régulièrement le point avec son manager. Et du coup, il y a un moyen dans les 3 P de se faire un peu, de se faire mousser sans que ce soit désagréable, en étant factuel et dans un cadre où c'est fait pour. Donc, vous allez exprimer à votre manager 3 progrès que vous avez faits depuis la dernière fois que vous l'avez rencontré. Je recommande toutes les 2 semaines, une fois par mois, un truc comme ça. Pas plus espacé. Donc, 3 progrès, c'est l'occasion de vous faire mousser. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez avancé, des dossiers qui ont avancé grâce à vous, etc. C'est hyper important qu'il le sache. 1, parce que votre manager, il le sait jamais. C'est garanti qu'il le sait pas, je vous promets. Et les gens l'ont découvert avec beaucoup de souffrance, donc je vous garantis que c'est pas le cas. Deuxièmement, parce que quelqu'un d'autre s'est fait mousser avec vos accomplissements. Hein, le succès a une, c'est en allemand, je crois, qu'on dit que le succès a beaucoup de pères. Donc, on va essayer de se débrouiller pour qu'il ait quelques mères quand même. Donc, vous allez expliquer que c'est vous qui avez fait le truc, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est parti utiliser ce que vous avez fait pour se faire mousser avec. Ensuite, le deuxième P, c'est les problèmes. Parce que vous pouvez annoncer les problèmes que vous avez pour que votre manager vous aide à les résoudre. C'est important. Et aussi parce que des fois, vous pouvez faire mousser dans cette partie-là en exprimant un problème que vous avez eu et que vous avez réussi à résoudre. Ça aussi, c'est un succès d'avoir résolu des problèmes. Et troisième partie, c'est les plans. Parce que avec les plans, tu vas pouvoir préciser ce que tu vas faire dans le futur avec ton chef, donc annoncer tes futurs succès. Comme ça, quand tu reviendras lui dire que c'est fait, t'as dit que tu le ferais, t'as dit que tu l'as fait, et c'était une réussite. Ça fait trois fois qu'on rappelle qu'on est à la tête de quelque chose. Et puis en plus, tu peux te débarrasser des tâches pourries que t'as pas envie de faire. Parce qu'évidemment, tu les annonces pas dans les plans. Comme ça, hop, ça saute. Et tu peux, tu vois, avoir le truc de dire, ah oui, mais on n'était pas tombé d'accord là-dessus. Moi, j'étais sur ça, ça et ça, en fait. Donc, ça permet en plus, tu vois, d'un petit effet collatéral. Mais dans les 3P, t'as trois occasions, en fait, de te faire mousser d'une manière avec laquelle les femmes sont plus confortables parce que c'est du factuel. Ce que t'as réussi à faire, les problèmes que t'as réussi à résoudre et t'annonces par avance ce que tu vas réussir à faire dans le futur.
Donc là aussi, on a le mois passé, le mois présent, le mois futur qui sont présents dans les 3P. Donc, on retrouve encore cette idée de temps et de durée. Tu parles beaucoup de réseau. Si je devais le résumer en une phrase, ton message principal, c'est de dire le réseau, il est partout et ce n'est pas de la triche. Ce n'est pas de la triche, le réseau. C'est un phénomène naturel et une action qu'on doit avoir au quotidien. Beaucoup de gens pensent que se faire du réseau ou développer son réseau, ça nécessite d'être très extraverti, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des gens qui ont des réseaux incroyables, qui sont des personnes beaucoup plus introverties, qui préfèrent voir les personnes en solo, tu vois, plutôt que des groupes ou des choses comme ça. Concrètement, comment est-ce qu'on intègre de manière beaucoup plus consciente, plus de soins et de temps au développement de son réseau ?
Alors, je vais reprendre quelques points de ta question et après, j'arrive immédiatement avec le conseil. Tout d'abord, parfaitement d'accord avec toi. Il y a plein d'introvertis qui ont des réseaux excellents, notamment parce que dans le réseau, en fait, le réseau, c'est constitué des gens qui ont envie de nous aider, qu'on a envie de soutenir, etc. Et il y a un truc qu'on aime beaucoup tous en être humain, c'est les gens qui nous écoutent, qui ont vraiment envie d'entendre ce qu'on a à leur dire. Souvent, les introvertis, c'est quand même des gens qui bavassent moins que les extrovertis. Et donc, c'est des gens avec lesquels on peut vraiment accrocher profondément. Donc, typiquement, ils sont pas du tout incompétents pour se créer un réseau, très loin de là. Ils ont une carte maîtresse de l'écoute active, tu vois.
Déjà, les femmes, elles ont appris à écouter depuis qu'elles sont toutes petites parce qu'on leur laisse moins de temps de parole. Donc, pour ça, au moins, elles sont fortes. Hein.
Exact.
Et donc, je vais vous écouter.
Mais oui. Et alors, franchement, je le dis avec, avec provoque un peu des fois, mais les vieux hommes qui sont dans des positions de pouvoir, ils adorent des jeunes femmes qui les écoutent. Et des fois, tu te crées des réseaux ici juste comme ça parce que, en fait, le mec, il a envie de t'aider juste parce qu'il aime bien que tu sois là et que tu l'écoutes raconter des histoires de en 85 quand on faisait je sais pas quoi dans je sais pas quoi, tu vois. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. L'autre aspect aussi dans cette histoire et dans cette question, c'est que ce qui est de la triche, c'est pas le réseau. C'est-à-dire, la triche, c'est pas de bénéficier de son réseau ou de faire bénéficier de son réseau des personnes. La triche, c'est de faire croire à tout le monde que ça n'existe pas et qu'on s'est fait tout seul. Ça, pour moi, c'est la vraie cheat. La cheat, c'est je suis un self-made man ou je suis une self-made woman. Et dès que tu grattes, mais un tout petit peu le vernis, c'est que tu mets un coup d'ongle dedans, bam, tu vois tout le réseau apparaître, tu vois. Elon Musk, ce génie, ce self-made man, dont le père avait hérité d'une mine d'émeraude et qui a reçu son premier million pour monter PayPal de l'argent familial. C'est, je lui reproche pas d'avoir reçu de l'argent pour créer PayPal ou pour créer Tesla ou pour quoi que ce soit. Et je nie pas le fait qu'une partie de son travail a contribué au fait que ses entreprises soient devenues grandes, florissantes, etc. Et je dis pas que si on avait mis n'importe qui à sa place, ça aurait le même résultat. Je dis juste que c'est honteux de diminuer ce facteur-là, ce paramètre qui existait au départ.
Ou Donald Trump, qu'on présente comme un self-made man, alors que c'est un héritier. Il a jamais réussi à, il a jamais fait des succès de business par lui-même. En fait, il a hérité de son père, qui était lui le vrai businessman. Mais bon.
Ouais. Parenthèse. Et alors lui, c'est encore plus flagrant parce qu'en plus, nos nombreuses études économiques ont montré que si c'était juste assis sur le pognon et qu'il l'avait placé, il serait
plus riche qu'il ne l'est maintenant.
Voilà. Ce qui montre qu'en plus, ce mec est un échec. C'est-à-dire, au-delà de juste le fait que c'est un héritier qui a échoué. Alors que Elon Musk, c'est un héritier qui a réussi, tu vois. Mais, en fait, on a tous un réseau et on a un démarrage. C'est pas le même pour tout le monde dans la vie. Et faire croire aux gens que, en fait, on s'en sort tout seul, ça, c'est la vraie triche et c'est le vrai truc moche. Par contre, comment on fait pour avoir un réseau? Alors, si quand je dis réseau, vous imaginez ballroom d'hôtel, là, salle d'hôtel avec du champagne chaud et que des costumés qui se parlent et qui se font mousser. Ouais, non, ça, c'est dégueulasse. D'abord, personne n'a envie de le faire. Et deuxièmement, ça marche pas en vrai. Parce que comme tout le monde est là pour quelque chose, personne n'obtient jamais rien. Parce que c'est comme partout, il faut qu'il y ait des vendeurs et des acheteurs, tu vois. Et là, c'est un endroit où tout le monde est acheteur. Donc, c'est nul. Je comprends que ça vous fasse pas envie. Et en plus, les femmes peuvent pas se le permettre parce que souvent, c'est les trucs le soir. Et donc, du coup, bah voilà, vie familiale, inégalité des tâches domestiques. Donc, tu peux pas y aller. Le réseau sur lequel vous allez vraiment compter, c'est celui que vos accomplissements vous apportent. C'est vos ex-collègues. C'est les gens avec qui vous êtes allé à l'école. C'est vos proches. C'est vos managers. Et c'est un très bon réseau qui s'active très bien. Parce qu'en fait, il est proche de vous. Par contre, il faut l'activer. Et l'activer, ça veut dire qu'il faut oser dire aux gens qu'on cherche quelque chose. Il faut oser dire aux gens qu'on est en quête d'un nouveau poste. Je te dis un truc tout bête, mais c'était mon anniversaire le 23 janvier. J'avais plein de potes chez moi. Un certain nombre d'entre eux qui sont des anciens collègues et des gens qui sont dans plein de boîtes différentes. Et je leur ai dit que je commençais à envisager peut-être de voir ailleurs un peu ce qui se passe, de changer de poste, etc. Et donc, j'ai prévenu ces gens-là dans l'idée que s'ils voyaient une opportunité, ils allaient me dire « Sarah, regarde, on a vu ça ». Et d'ailleurs, ça marche parce que depuis, il y en a qui commencent déjà à me rebalancer des trucs sur WhatsApp en mode « Au fait, ce truc-là, tu l'as vu passer ?» Parce que ça a l'air cool quand même, tu vois. Et je connais un mec là-bas, si tu veux, je peux lui en parler. Et ça marche parce qu'on demande. Et tu vois, c'est aussi un truc qui est difficile pour les femmes, c'est aller demander de l'aide parce que quand t'es tellement au service de tout le monde, ça veut dire un, se recentrer sur soi, deux, se dire que les autres peuvent nous aider. Quand tu t'es fait lâcher plein de fois dans ta vie, t'as pas trop envie de te dire ça. Mais en fait, c'est ça la vraie nature du réseau.
Quand on pense réseau, on pense aussi réseau au féminin, on pense sororité. Tu parles beaucoup de sororité, l'idée que c'est beaucoup plus facile de se dire comment est-ce que je vais aider mes sœurs plutôt que comment je vais me faire aider par elles. Et en fait, on amorce une relation d'entraide dont on va aussi bénéficier par la suite. Cette notion de sororité, elle est très forte chez toi. Moi, je l'aime beaucoup aussi, mais j'aime bien lui ajouter une autre notion qui est cette notion de filiation. Et quand on pense filiation, tu vois, on pense verticalité, alors que sororité, tu penses horizontalité. Et cette verticalité, elle est importante dans plein de sens. Il y a ce que tu disais tout à l'heure sur la Sarah, la petite Sarah et puis la vieille Sarah. Donc là, il y a déjà une notion de verticalité dans le sens de la filiation à l'intérieur de toi-même. Mais la filiation, c'est aussi avec ta mère, avec ta grand-mère, avec tes arrière-grand-mères, avec des personnes qui sont plus seniors que toi, qui vont te tirer vers le haut, et avec des personnes plus jeunes que toi, que tu vas faire grandir comme si c'était tes filles, et pas tes sœurs, en fait. Et en fait, je pense que les deux sont importantes parce qu'on a beaucoup opposé les générations. Il y a toute une génération de jeunes féministes qui ont un peu cette idée que leur mère et leur grand-mère, elles sont quand même complètement à côté de la plaque, quoi. Elles ont tout foiré et qu'elles feront mieux. Tu vois, moi, je me ferais pas avoir comme elles, quoi. Et c'est des vieilles connes, en fait. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait, on nourrit, tu vois, ce double standard du vieillissement dont parlait Suzanne Zontag en 1972, qui fait que ageisme et sexisme combinés, c'est un cocktail explosif, et notamment au travail, où les femmes se sentent out à partir du moment où elles sont identifiées comme étant potentiellement mère ou grand-mère, quoi. Donc, je voulais avoir ton ressenti là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de filiation pour compléter la notion de sororité dont tu parles beaucoup?
Alors, la notion de filiation, elle est très, très vraie, notamment sur les questions, tu vois, de mentoring. C'est-à-dire que si on continue à parler de réseau, bah, le mentoring, c'est ça. C'est une relation de mentor à mentee, donc de position plus expérimentée à moins expérimentée. Et c'est une place qui est très importante, qui est un peu presque centrale dans le réseau et qui peut parfaitement être occupée par une femme qui serait notre mère, qui serait notre grand-mère, qui est une femme qui est là depuis beaucoup plus longtemps que nous et qui a, on le disait au début, la vieillesse, c'est la richesse de l'expérience, tu vois. Et donc, qui peut nous faire bénéficier de cette richesse de l'expérience, absolument. J'ai du mal à me projeter dans la figure de ma fille parce que j'ai pas d'enfant et que à mon âge, ça, c'est pas très prégnant. Donc, du coup, toutes les jeunes femmes, je les vois comme des petites sœurs. Mais je suis sûre
les ados d'aujourd'hui, tu pourrais être leur mère et tu pourrais aussi te mettre en position de te dire qu'est-ce que je dirais à ma fille, même quand on n'a pas de fille, en fait. Mais
ouais, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est bizarre, ça marche pas comme ça dans ma tête. Je suis toujours en mode c'est ma petite sœur. Mais
essaye, alors du coup, je t'invite à faire cet exercice.
Ça marche. Alors, je prends ça en note avec moi que j'emporte de cette interview. Mais du coup, tu vois, typiquement, la figure de la mère et de la grand-mère, je vois très bien le truc. Moi, de toute façon, je fous ma grand-mère partout, ok? C'est-à-dire qu'elle est dans mes livres. Il y a toujours une citation de ma grand-mère quelque part. Une de mes préférées, parce que ma grand-mère, elle a des punchlines, tu peux pas tester. Et une de mes préférées, c'est ma grand-mère, elle dit que c'est les tonneaux les plus vite qui font le plus de bruit. J'adore, elle est gold, tout le monde voit le truc. Je la ressors 4 fois par an. Je la traduis en anglais, en suédois, tu vois. C'est génial. Donc, ma grand-mère, elle est partout avec moi. Encore il y a pas longtemps, je passais un entretien d'embauche. Je citais ma grand-mère. Donc, c'est une vraie figure d'inspiration. Et du coup, je comprends l'intérêt. Et comme tu disais, en fait, on n'est jamais déconnecté. On est toujours partie d'une histoire. Et donc, partie d'une histoire, ben, c'est à la fois vrai dans les luttes féministes. Il y a une histoire qui nous précède et qui a construit un certain nombre d'étapes jusqu'à là où on en est, nous. Et c'est quelque chose qui a toujours été prégnant dans Power Ta Carrière, parce que moi, mon idée, c'est je vous explique les erreurs que j'ai faites pour que vous alliez en faire plus loin. Donc, c'est cette idée d'histoire continue, parce que dans mon idée, celles qui font pas mes erreurs, qui vont faire des erreurs plus loin, donc qui m'ont dépassé, ben, elles expliquent aux suivantes comment aller faire des erreurs encore plus loin. Et donc, en fait, on dépasse des barrières ensemble. Et donc, tu vois, ça a aussi une notion de collectif, cette notion de filiation, cette notion de les suivantes iront plus loin que nous. Les suivantes nous dépasseront. Mais elles dépassent si elles peuvent bénéficier de l'apprentissage accumulé.
Oui, s'il y a transmission. Il faut qu'il y ait cette transmission.
Il faut qu'il y ait cette transmission. Moi, ma grand-mère, je peux évidemment pas imaginer, en fait, que ma grand-mère soit une figure qui se soit plantée de tout sur tout, qui n'ait pas été féministe et tout. On a des histoires familiales qui sont incroyables, si j'en partage une très très rapidement. Mais en fait, ma famille, elle est traversée par le fait militaire, à la fois parce que j'ai un arrière-grand-père qui a combattu dans la Seconde Guerre mondiale pour la France, et aussi parce que j'ai un grand-père qui a été un martyr de la guerre d'indépendance d'Algérie. Donc, si tu veux, c'est intéressant comme parcours. Et puis, moi, du coup, je suis française. Mais mes ancêtres sont algériens. Et en fait, quand tu prends ça, t'as ma grand-mère dans cette histoire. Tu sais, le fait militaire, on a toujours l'impression que c'est un truc d'homme, mais pas du tout. Et t'as ma grand-mère dans cette histoire où, en fait, son mari, donc, se retrouve à, être un insurrectionniste, quoi, en Algérie. À être un maquisard. Donc, elle se retrouve à avoir ses 3 enfants, 3 jeunes enfants qu'elle élève toute seule. Et 3 dans le sens que le dernier, il est né il y a pas un mois, tu vois, quand mon grand-père doit prendre le maquis, parce que ça y est, ça a été découvert qu'en fait, il était un espion et il doit se barrer, quoi. Et donc, à un moment donné, ma grand-mère, pendant ce temps-là, elle soigne les maquisards qui sont blessés dans son garage. Et il y a un jour où il y a des traces de sang qui mènent au garage de ma grand-mère. Et donc, il y a les troupes françaises tapent à la porte de ma grand-mère et lui disent que en gros, elle a été dénoncée et qu'ils savent qu'elle héberge des gens. Et littéralement, à ce moment-là, il y a quelqu'un de blessé dans son garage. Donc, si elle ouvre la porte, c'est une catastrophe pour tout le monde, quoi. Et donc, ma grand-mère essaye d'expliquer que c'est pas vrai. Les soldats français insistent. Et elle lève sa robe pour montrer son jupon qui est taché de sang de son retour de couche. Et elle lui dit, bah, puisque vous voulez tout savoir, ben, en fait, le sang, c'est ça, quoi. Et elle a son bébé, tu vois, avec elle dans les bras, en fait. Et donc, les soldats, ils sont très gênés parce qu'on est en train de parler des règles, tu vois, c'est moche. Et d'une femme qui a accouché, dégueulasse, berk. Et du coup, ils se barrent. Et ma grand-mère, en fait, elle s'en sort comme ça, tu vois. Et tu peux
génial,
pas dire que c'est pas
génial.
Féministe.
Utiliser la misogynie des gens pour contre eux, en fait, c'est absolument génial, cette histoire. Ouais. Ah ouais, c'est complètement féministe, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais, super belle histoire. On termine avec une petite histoire pour la fin, ou un petit message pour la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire s'il y avait un message à la vieille que tu espères devenir ? Prenons la Sarah de 80 ans ou de 85 ans. Voilà, tu espères avoir 85 ans un jour, bien sûr, on espère tous. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ?
Mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est elle qui a des trucs à me dire, tu vois, avec sa sagesse, plutôt que moi qui ai des trucs à lui dire. Mais du coup, si j'ai des trucs à lui dire, tu vois, ça va être des trucs humbles, plutôt de lui dire, bah, j'espère que t'es fière de moi, j'espère qu'on s'en est bien sorti, que là où t'es contente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tu vois, plutôt que l'inverse, quoi, que de lui donner, tu vois, des conseils ou des injonctions ou des trucs. Je me dis juste, j'espère que j'ai, tu vois, même on parlait de financièrement au début, j'espère que j'ai bien pris soin de nous et que maintenant, tu vois, tu vis une vie contente avec plein de loisirs bien confortables parce que c'est sûr que tu l'as mérité.
Génial. Et puis, j'espère que tu vas m'aider et que tu vas être avec moi pour les prochaines décisions que je vais prendre. C'est peut-être lui demander de l'aide aussi, hein. On peut
c'est
lui
vrai,
demander de
tu
l'aide.
Vois. C'est vrai qu'on pense jamais assez, hein, à demander de l'aide, jamais assez. Mais enfin, c'est ça, hein. C'est pour ça, j'espère que t'es fière de moi parce qu'on s'est soutenu et si je fais une connerie, n'oublie pas, tu me le dis, quoi, hein. Tu me fais signe.
Merci beaucoup, Sarah, pour cette conversation stimulante qui va égayer ma journée. Et à très bientôt.
Merci beaucoup, Laetitia.
Vous venez d'écouter un épisode de Vieille en Puissance. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis et votre famille. Cela nous aide à faire connaître le podcast et à diffuser les messages importants pour permettre aux vieilles de gagner en puissance.